Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai que c'est quand même une grâce de se retrouver avec des frères et des sœurs. C'est pas vrai, hein? Sous le regard de Dieu. On va lire un verset, un commandement. Dans la Bible, je le dis souvent, il y a toutes sortes de paroles. Il y a des avertissements, il y a des encouragements, il y a des promesses, il y a des prophéties. Là, nous avons un commandement, un beau commandement, dans Hébreux chapitre 3, au verset 13. Un verset qui s'adresse à tous les chrétiens. C'est un commandement et vous savez que les commandements sont bénis. Vous le croyez? Vous connaissez un verset qui vous fait penser au commandement? Oh, si tu étais attentif à... Qu'est-ce qu'elle dit la suite? Alors aidez-moi. Non, ce n'est pas ça, Denis. Vous êtes renvoyé, vous pouvez partir. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur serait comme les flots de la mer. Les commandements, ils sont tous bons, même si on ne les comprend pas au début. Je comprends qu'on puisse ne pas tout saisir. Mais au fur et à mesure que vous vieillissez, ou plutôt que vous mûrissez dans la foi, vous comprenez que tous les commandements de Dieu sont bons. Celui-ci, dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais, alors au verset 12, il y a vraiment un avertissement, vous voyez, ça c'est un avertissement. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Donc il y a des chrétiens qui ont un cœur mauvais et incrédule. Mais, verset 13, exhortez-vous les uns les autres chaque dimanche. Aussi longtemps qu'on peut dire dimanche. Non, c'est ça que vous avez? Exhortez-vous les uns les autres chaque... Est-ce que vous aimez la personne qui est à côté de vous? Tiens donc, regardez la personne qui est à côté de vous, regardez-la bien. Écoutez, la plus proche de vous. Voilà. Regardez-la, est-ce que vous pouvez dire, tu sais, je t'aime? Ah, attention les jeunes, hein, t'as doucement de ça. Mais enfin, dans l'amour du Seigneur, est-ce que vous pouvez dire... Non mais est-ce que c'est important d'aimer les gens? Tu aimeras ton prochain? Comme toi-même, ça aussi c'est un commandement. Bien sûr que tout le monde te dit, moi j'y arrive pas. Eh bien c'est pas grave, Dieu vous aidera. Exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Elle est belle l'Église, composée d'hommes et de femmes qui avec leurs vicissitudes, leurs épreuves, etc. ont quand même décidé de dire, eh bien moi je vais prendre cette affaire à cœur parce que je sais de toute façon que tout ce qui suivra est lié à cette affaire. Tout à l'heure, avant le jeûne et prière, nous avons évoqué la situation où Josué est arrivé à un point de son ministère, de sa vie, du plan de Dieu, malgré les 40 années qu'il a dû subir dans le désert à cause des autres. Parce que vous savez, on peut être dans le désert à cause de ses propres fautes, mais on peut être dans le désert à cause des autres. Alors ça, c'est pas marrant. Mais enfin, il sort, plein de grâce. Pourquoi ? Parce qu'il connaît Dieu et il n'en tient pas rigueur à ses frères. Lui, il veut faire les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Donc il sort et après une certaine préparation qui est liée au courage, Dieu lui va demander quelque chose qui est incohérent humainement. Il va lui demander de tourner autour de Jéricho, une ville barricadée, une forteresse, de tourner dans le silence à part les trompettes, une fois par jour pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour. Et au 7e jour, le 7e fois, il crie, il sonne la trompette, les murailles s'écroulent. C'est l'image de la prière persévérante. Ce qu'on n'obtient pas le 1er jour, eh bien on l'obtient le 6e. Ou ce qu'on n'obtient pas le 3e, on l'obtient le 10e. Il faut persévérer. Il faut savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des versets clés comme celui-ci, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Puis après, il y a des œuvres collectives. Par exemple, l'œuvre dans laquelle nous sommes correspond à une vision collective. Mais aussi, il y a des œuvres individuelles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui correspondent à toute l'Église, mais il y a des choses qui vous correspondent d'une manière individuelle. Des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Elles ne peuvent pas s'accomplir si au préalable, il n'y a pas eu cette intelligence de cœur de comprendre que c'est de notre responsabilité de prendre courage. Vous savez, dans la vie, il y a des épreuves qu'on ne comprend pas. Des fois, on se retourne quelques années après, on dit « Mais Seigneur, mais ça venait de toi cette épreuve. Moi, je croyais que ça venait du diable, mais je me rends compte que c'est toi qui as permis cette épreuve. Parce que le diable n'aurait pas permis ça, pour que j'apprenne autant de choses. » Et vous êtes certainement nombreux à pouvoir témoigner de ça, de pouvoir dire, mais cette épreuve, Seigneur, tu l'as permise. Parce que j'ai appris tout ça. Et comme le disait si bien le jeune homme qui fait chanter, quand il chantait que les épreuves, ou elles nous approchent, ou elles nous éloignent. Les épreuves, elles nous approchent de Dieu, ou elles en éloignent. Alors écoutez-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour obéir à Dieu, dire, Seigneur, tu as mis des frères à côté de moi, c'est ma responsabilité de leur donner du courage. Alors tiens donc, est-ce que vous avez tendance à encourager ceux qui sont à côté de vous ou à les décourager? Répondez doucement. Est-ce que vous êtes de ceux qui faites du bien aux autres? En tous les cas, si ce n'était pas le cas jusqu'à ce soir, nous pouvons tous nous corriger et dire, on va prendre cette affaire à cœur. C'est un commandement, c'est sérieux, c'est de notre responsabilité d'avoir du courage. Les épreuves, on ne sait pas d'où ça vient. C'est vrai que souvent, on ne sait pas. Souvent, moi, j'ai entendu, quand je me suis converti, une dame me disait, oui, toutes les épreuves, toutes les tempêtes, elles viennent du diable. Bon, quand j'ai lu les tempêtes dans la Bible, il y en a quatre. Il y a quatre tempêtes dans la Bible. Il y a Jonas, deux avec le Seigneur Jésus, un où il est avec, l'autre où il les rejoint, et la quatrième, c'est la tempête de l'apôtre Paul. Moi, je les vois toutes contrôlées par Dieu. Toutes. Toutes. Même si Dieu ne voulait pas que Paul aille à Rome, je me demande quand même si le Seigneur n'a pas permis cette épreuve. Ce sont des choses... Mais qu'importe. Par contre, Paul a reçu une parole de Dieu et il a pu encourager tout ce qui était sur le navire. Alors, avant l'expérience de Jéricho, on va lire... Ce que Dieu demande à Josué, il le demande à tous les chrétiens dans le Nouveau Testament. On n'aura certainement pas le temps de tout voir, mais j'aimerais que nous le lisions ensemble. Il y a des étapes dans la vie, il y a des choses qui changent. Dieu vous appelle à faire quelque chose, paf, tout d'un coup, une situation nouvelle se présente. Regardez dans Josué, 40 ans ont passé. Josué a été fidèle pendant ses 40 ans dans le désert. Alors je vous assure, ça fait du... Moi j'ai calculé, les années juives font 360 jours, 40 fois 360 jours, je peux vous dire que ça fait, si je ne me trompe pas, 14 400 nuits. À se coucher le soir en se disant, si je suis dans le désert, c'est la faute aux autres. Et lui il ressort, Dieu lui a préparé un plan, à savoir diriger tout un peuple. Josué chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hessiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est les promesses. Maintenant, les commandements. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc Dieu a des plans, des projets. C'est pareil, si vous lisez le livre aux Éphésiens, vous avez la même perception. Dieu a des œuvres, Dieu a des projets. Il a tout préparé à l'avance. Vous vous rendez compte? Toutes les œuvres... Dieu vous les a préparés. À nous d'y entrer, comment? Vous voyez, il fallait que Josué, quand vous allez voir, si vous lisez ce livre, vous voyez des directives tout à fait différentes les unes des autres. Mais il fallait que ça passe d'abord par le courage. Si bien de dire, Seigneur, je veux rentrer dans les œuvres que tu as préparées. Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Vraiment, Seigneur, je l'ai à cœur, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut être fort. Et ça, c'est de notre ressort. Vraiment, c'est de notre responsabilité. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut me donner? Bon, c'est sûr, Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce que je dois être? Oui, je dois recevoir du courage. Jésus, quand il a enseigné toutes les promesses, regardez ce qu'il leur a dit dans Jean au chapitre 16. Il y a des promesses, en veux-tu, en voilà. dans Jean chapitre 14, 15 et 16. C'est impressionnant toutes les promesses qui sont déversées dans ces chapitres. Et à la fin de toute cette flopée de promesses, Jésus dit ceci, Jean 16, 33, il le dit bien. C'est important quand il est écrit « Je vous ai dit ces choses ». Vous y êtes, Jean 16, 33. C'est de la délicatesse, ça. Moi, je bénis Dieu d'avoir la Bible en français. Je bénis Dieu de ce que Jésus nous a dit tout. Alors, il y en a qui, oui, mais Dieu ne nous a pas tout dit. Oui, bien sûr que Dieu ne nous a pas tout dit. Mais tout ce qu'on a besoin de savoir, il nous l'a dit. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses. Alors, pourquoi Dieu nous a parlé? Afin que vous ayez la paix. Afin que vous ayez la paix en moi. La paix, elle est en Jésus, croyez-moi. Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire des épreuves, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, de la même manière que Josué reçoit l'ordre d'être fort, nous aussi, nous recevons le même ordre. Nous avons besoin d'instructions. Jésus l'a dit, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Nous sommes, je le répète parce que c'est la pensée qui s'est imposée à mon cœur lorsque j'ai préparé ce culte, cette réunion, nous sommes responsables de notre courage. Notez-le si vous le voulez, mais je vous assure que c'est quelque chose que Dieu veut. Dieu veut nous donner du courage. Il n'est pas dit prenez courage en vous. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Il n'y a pas grand-chose. Quand il est dit prenez courage, ça signifie que c'est Jésus qui donne du courage. Nous, des fois, je me prends la tête. Allez, tu arriveras. Il y a des gens, c'est la méthode Coué, ça, voyez. Tu es fort. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Seigneur, par la foi, dans ta présence, je prends courage. Comment on prend? Je prends courage. C'est un verbe actif. C'est un verbe qui dit, voilà, et c'est un acte de foi. Seigneur, toi, tu me donnes du courage. Et le Seigneur vous le donnera. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager. Vous savez, il y en a un qui est fort pour ça. Vous ne croyez pas qu'il y en a un qui fait tout pour nous décourager? Tout pour nous décourager. Hier, en ce moment, je lis les livres de Samuel, quand David est arrivé à Tziklag, vous savez, cette ville qu'il avait acquise, c'est compliqué, mais enfin, il avait acquise cette ville, et un jour il revient, on lui empêche de faire la guerre, et heureusement, ça aussi c'était conduit par Dieu, on lui empêche de faire la guerre contre Israël, heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce que c'est à cette guerre que Saül et ses fils sont morts. Vous voyez, lui il râlait, et il revient à sa ville entière est brûlée. Vous rappelez, ça doit être terrible, la ville entière est brûlée, tout a été volé. Tout. Et en plus, comme c'était le chef, tout le monde était découragé, tout le monde pleurait, et bien sûr, il faut toujours un responsable. Donc, il commençait à penser, ses frères, à le lapider. Vous voyez, ils ont dû se dire, voilà, c'est la faute à David, alors qu'il y était pour rien. Mais il parlait de le lapider. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que David a repris courage. Il a demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras. Et vous savez ce qui s'est passé? Non seulement il a tout retrouvé, mais en plus il a retrouvé tout un butin extraordinaire. Il est dit, David ramena tout. Vous n'aimeriez pas ce soir rentrer chez vous et ramener tout dans votre cœur. Cette grâce, cette miséricorde, cette faveur, cette espérance, cette consolation. Qu'est-ce que Dieu pourrait donner à quelqu'un ce soir? Sérieusement. Qu'est-ce que Dieu pourrait te donner ce soir? Par la foi, sérieusement. Tout. David ramena tout. Et vous devez croire que ce soir, vous pouvez tout ramener chez vous. Parce que c'est la volonté de Dieu, les ruisseaux de Dieu sont pleins. Vous pouvez dire, oui, je vais prendre courage. Quand on prend le pain, moi, vous savez le dimanche, quand il dit prenez, mangez, prenez, buvez, il y a des gens, ils prennent un bout de pain, il y a des gens, ils boivent un peu de vin. Ils ne réalisent pas que derrière ce commandement, il y a des victoires à prendre. Seigneur, je reprends cette foi vivante, cette confiance vivante. David, il a tout ramené. Croyez-moi, ce soir, vous pouvez repartir dans votre maison, et ça dépend que de vous. Hein. Quand Josué a obéi, parce que c'était d'un ridicule pas possible, qu'une forteresse de plusieurs dizaines de mètres de haut s'écroule en tournant autour dans le silence. Il faut le faire déjà. Remarquez, tourner 7 fois de suite dans le silence. Je ne sais pas, peut-être il n'y a que des hommes qui peuvent le faire, j'en sais rien. Mais non, des hommes, des êtres humains, excusez-moi, je l'ai mal dit. je l'ai mal dit, des hommes, des guerriers, voilà ce que je voulais dire. Mes frères et sœurs, est-ce que vous ne croyez pas que c'est une bénédiction? Est-ce que vous avez envie de faire des expériences qui correspondent à la volonté de Dieu? Il y a des gens qui veulent faire des expériences pour faire des expériences, mais il y a quand même des expériences qui correspondent à la volonté de Dieu. Et celle de dire, mais qu'est-ce que tu dis? Tu m'exhortes à quoi? À prendre courage, à exhorter mon frère, ma sœur, tous les jours. Eh bien, Seigneur, j'aimerais terminer la course en me donnant du courage. Il y a des gens, c'est vrai, je le dis souvent, mais c'est malheureux, ils sont tout le temps en train de vous décourager. C'est pas vrai? C'est pas vrai, franchement. Et les pêcheurs, c'est normal que de même vous rencontriez un pêcheur qui soit découragé. Mais combien c'est normal? Il y a des chrétiens qui sont tout le temps en train de râler. Ils passent à côté d'une grâce. Ils se sont laissés manger par les ruses de l'ennemi. Le diable, Jésus dit que c'est un voleur. Alors qu'est-ce que Dieu demande à Josué? Eh bien, il nous demande la même chose, de nous tenir devant Dieu. N'oubliez pas, c'était un chef d'État. C'est le premier chef d'État qui sort dans la Bible. C'était un chef d'État. Il avait certainement énormément d'occupations, comme tous les chefs d'État. Dieu lui dit, je te demande une chose, fortifie-toi seulement et prends courage. Je ne sais pas quelles sont vos activités, je ne sais pas quel est votre travail, je ne sais pas quel est votre métier, mais je peux vous dire, ne trouvez pas d'excuses pour dire, je n'ai pas le temps de me tenir devant Dieu. Si Josué était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait au fait, si Josué vivait de notre temps? Tiens donc, est-ce que Josué passerait des heures devant des activités inutiles, ou est-ce que vous pensez qu'il s'appliquerait à se tenir devant Dieu? Moi je sais ce qu'il ferait, il ferait ce que Dieu lui a demandé. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce que Dieu vous demande? Agir fidèlement selon toute la loi. Écoutez bien. Agir fidèlement selon toute la loi. Je répète. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'écoutent pas. Tu agiras fidèlement selon toute la loi que je t'ai prescrite. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises, pour nous, c'est quoi? Eh bien, c'est la famille. Alléluia. Vous n'avez pas réussi, envie de réussir dans toute votre famille, dans l'église, dans la responsabilité que Dieu vous confie, dans le travail que Dieu vous a donné, ou le nouveau travail que Dieu va vous donner, parce que Dieu peut changer les choses, les plans de Dieu, les œuvres de Dieu qu'il a préparées. Je voudrais faire cette expérience. Je serai fidèle dans tout ce que tu me demandes. Tu me demandes de pardonner, je pardonne. Tu me demandes d'aimer de tout mon cœur, eh bien Seigneur, tu vas m'aider. Seigneur, je te demande de l'affection pour telle personne avec qui j'ai énormément de mal. Est-ce que ça peut arriver d'avoir du mal à aimer quelqu'un? C'est terrible ça, hein? Moi ça m'est arrivé, je me rappelle quand je travaillais sur les chantiers, il y avait un gars, il ne le supportait plus. Ça vous est jamais arrivé ça? Il m'énervait, mais vraiment il m'énervait. Et un matin, quand je lui ai dit « Bonjour, tu vas bien ?», j'ai senti cette hypocrisie, vous savez, quand vous dites « Bonjour à quelqu'un, ça va, tu vas bien ?» Il s'appelait Francis. Elle m'a dit « Oui, ouais, mais toi, oui ?» Mais je me suis dit « Vraiment, t'es qu'un hypocrite. » Ah, mais ça m'a blessé, parce que je me suis dit « Mais tu dis que tu es chrétien. » Et le soir, j'en ai fait un sujet de prière. Le matin, je me suis levé, « Seigneur, je te demande de me donner de l'amour. » Tu as dit « Tu aimeras ton prochain, je veux aimer ce garçon. » Et quand je suis arrivé, quand j'ai dit bonjour, j'étais rempli de compassion pour lui. Je savais bien que ça ne venait pas de moi. Je savais très bien que ça ne venait surtout pas de moi. Et quand Dieu dit, prenez courage, il y a des actes de foi à faire. Quand on prie, comme le rappelait quelqu'un dans la prière tout à l'heure, on ne prie pas pour prier, on prie pour prendre. Je prends courage, je prends, quand je prends le pain, je prends une victoire, parce que je sais qu'au calvaire, il a versé son sang, il a été brisé pour mes iniquités, pour que je sois guéri physiquement. C'est un ordre, il faut absolument que nous le comprenions. Pour cela, il y a plein de versets dans la Bible, on va en voir quelques-uns parce que je ne veux pas m'éterniser. Mais regardez mon frère et ma sœur, dans Éphésiens, c'est le Josué de l'Ancien Testament, ou du Nouveau Testament. C'est exactement la même pensée qui ressort de ces deux livres. L'apôtre Paul est en prison. L'apôtre Paul est en prison, il rappelle, Éphésiens chapitre 2, verset 18, 3, verset 12, que nous avons cette grâce de nous approcher de Dieu. Je ne sais pas si pour vous c'est un honneur de vous approcher du Seigneur, de prendre du temps, de dire « Oh, j'ai un quart d'heure, j'ai demi-heure, ou est-ce que c'est une corvée ?» Répondez-vous à vous-même, ne répondez pas aux voix, mais est-ce que c'est une corvée de faire votre culte personnel ou est-ce que c'est un honneur ? C'est une grâce, oui. Éphésiens 2, alors regardons le principe. Le principe, c'est ça, Éphésiens 2, 18. Car par lui, donc par Jésus-Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans le même esprit. Verset 13 du chapitre 3. Verset 12, pardon. En lui, en Jésus-Christ, nous avons par la foi, en Jésus-Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Paul est en prison. À cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en prison. Il doit être quand même confronté à des questions. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est l'image de l'admiration que quelqu'un a pour Jésus. Être à genoux devant Dieu, on peut être à genoux, ça ne veut rien dire. Mais là, ça exprime cette reconnaissance, de dire, on l'appellera admirable. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom ? Pourquoi ? Pourquoi il prie ? Afin qu'il vous donne. Vous voyez mes frères, la prière, ce n'est pas pour prier. La prière, c'est pour que Dieu nous donne. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié ou encouragé, ça serait pareil, par son esprit, donc par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Vous voyez, être dans la présence de Dieu pour comprendre et pour connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En plus, regardez la cerise sur le gâteau, verset 20. Or, à celui qui peut faire, bien sûr, alors, or, c'est une conjonction. Cette promesse qu'on va lire maintenant dépend de tout ce qui précède. Il n'y a pas écrit point, il est écrit or. Or, ça veut dire que c'est une conjonction. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, qu'est-ce qu'il peut faire ? Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Amen, merci, enfin dites-le. Mais est-ce que vous le croyez ça ? Que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez ou demandez, à condition que nous soyons dans cette attitude de cœur. Oui, j'ai la liberté de m'approcher de Dieu, mais je peux m'approcher de Dieu n'importe où, n'importe quand. Je m'approche de Dieu avec confiance parce qu'il ne me rejette pas, il ne me repousse pas, il sait dans quel état je suis. Bien sûr, si je suis en hypocrisie, eh bien, il faut que je règle le problème de l'hypocrisie. C'est tout. Si je suis dans le mensonge, il faut que je retrouve le chemin de la vérité. Si je suis, je ne sais pas, moi, dans la tiédeur, Seigneur, eh bien, écoute, je ne supporte pas cette tiédeur, je veux redevenir bouillant. Est-ce que Dieu va vous aider à redevenir bouillant ? Mais pensez donc, pensez donc. Et si nous vivons ces choses, Dieu nous donnera, Dieu nous aidera à prendre courage. C'est pour ça que, vous voyez, dans les Éphésiens, regardez, dans le chapitre 6, c'est l'apothéose de ce livre, c'est la conclusion qui se comprend par un bon combat. Il y a tout un comportement à avoir, c'est le courage. Et au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, bon, regardez comment ça se termine, Éphésiens 6, verset 10, au reste, c'est une fois que l'on a compris ces choses, il dit, fortifiez-vous dans vos forces. Comment vous avez-vous ? Fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Vous voyez, c'est exactement le même commandement. C'est un ordre. Vous aimez les ordres ? Alors, je peaufine mieux ma question par rapport aux réponses. Est-ce que vous pensez que tous les ordres de Dieu sont intelligents ? Tous les ordres de Dieu sont intelligents. Si vous ne croyez pas que les ordres de Dieu sont intelligents, c'est que vous êtes vraiment un bébé en Christ. Et ce n'est pas du tout un reproche. C'est pour vous encourager à grandir. Tous les ordres de Dieu sont utiles. Et quand Dieu dit, mais au reste, maintenant je vous ai donné ce qu'il fallait, fortifiez-vous dans le Seigneur. N'essayez pas de vous fortifier dans votre personnalité. Oh, mais moi j'ai du courage. Moi, je suis optimiste. Vous savez, moi je ne suis pas pessimiste. Moi je serais un bon chrétien. Mais ça ne veut rien dire, optimiste. On n'a pas besoin d'être optimiste ou pessimiste. Il faut être réaliste. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut me donner du courage. Eh bien, je prends courage. Alors là, il nous est donné plein de conseils. Comment, en plus, voyez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous savez, il y a des choses visibles, mais il y a plein de choses invisibles. Et nous, souvent, on voit le côté visible. Quand on a un problème avec quelqu'un, on voit souvent le côté relationnel. On dit, tiens, et justement, il ne faut pas lutter contre la chair et le sang. Il y a un côté visible, il y a un côté invisible. Quand vous regardez le livre de Josué, vous voyez, j'y reviens parce que c'est quand même important quand on voit ce livre extraordinaire pour avoir des victoires. Quand Josué se trouve devant Jéricho, justement, vous avez là une description extraordinaire de ce qu'est vraiment cette affaire. Josué est là devant Jéricho, il est là, il a obéi, ils ont fait la circoncision, ils se sont sanctifiés, ils sont prêts. Et il regarde cette grande forteresse, il est là, puis tout d'un coup, il voit un homme. Il voit un homme à côté de lui, son épée à la main. Alors il s'approche, il lui dit, mais tu es de nos ennemis ou tu es des nôtres? C'est un homme. Ben, c'est un homme. Et cet homme lui répond, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Il y a le côté visible, Josué, et il y a le côté invisible. Le Seigneur qui combat pour nous. Et c'était Jésus, hein, c'était le Seigneur Jésus. Le chef de l'armée de l'Éternel dans l'Ancien Testament, croyez-moi, c'est le Seigneur Jésus. Et il aurait pu dire à Josué, mais écoute, qu'est-ce que c'est ces questions? Ça fait 40 ans que j'attends. Est-ce qu'il aurait pu le dire? Est-ce que le chef de l'armée de l'Éternel aurait pu faire un reproche sévère à Josué? Ben oui. Non, il ne le fait pas. J'arrive maintenant. Moi j'aime parce que les délais quand même, Dieu ne nous en tient pas trop rigueur. Il est là, il y a le côté visible et il y a le côté invisible. Quand nous obéissons, le Seigneur combat pour nous. C'est pour ça que le combat, ça doit être le bon combat de la foi. Il y a déjà, ils combattent avec des espèces de mantras évangéliques. Vous voyez, ils répètent des prières au nom de Jésus, je lis les ténèbres. Si vous n'obéissez pas, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. C'est ridicule. C'est de l'hypocrisie, c'est de la religiosité et ça fait rire le diable. Mais lorsque, dans sa grâce, nous disons, mais qu'est-ce qu'il dit le livre des Éphésiens? Qu'est-ce que Dieu me demande pour que je puisse avoir toutes ces armes qui me permettront de combattre le bon combat de la foi, parce que c'est Dieu qui combattra pour moi. Vous le croyez que Dieu peut combattre pour vous? Ben, quand vous priez, c'est ça. Dieu combat pour vous. Je vous avais raconté cette histoire, j'y pensais pendant qu'on chantait. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur, il y avait eu un problème dans l'église Albi. Il y avait un gars qui était venu une fois ou deux par rapport à un problème d'amoureux, etc. Avec une jeune fille et tout. Il avait un problème psychiatrique très très grave. Et il m'appelle un jour et il me dit, voilà, il était furieux, il m'a insulté pendant un quart d'heure. Et il m'a dit, je vais te tuer, je te le jure, je vais te tuer. Pendant un quart d'heure, il m'a insulté au téléphone. Et puis, 5 minutes après, il y a un de mes pasteurs qui me formait, il m'appelle et me dit, Gérard, je te conseille de faire très attention parce que ce qu'il a dit va le faire. Oui, ça m'a confirmé. Et je savais, je dis, écoute, Seigneur, si tu me préviens, parce que tu veux me reprendre, moi j'étais là, comme vous savez, je dis, Seigneur, si tu veux me reprendre comme ça, bon, enfin, ça m'étonnerait quand même. Ça, c'était le lundi. Le jeudi, je m'en vais faire la réunion à Gaillac. Je vais chercher un frère avec qui on partait faire la réunion. Il me dit, tu sais ce qui est arrivé mardi? Non. Au feu rouge de l'église, ils ont retrouvé ce gars mort d'un arrêt cardiaque à 50 mètres de l'église. Alors moi j'ai dit alléluia, à peine doucement. Il me dit comment? Non, rien, je dis rien. J'ai dit. Et Dieu l'avait arrêté à 50 mètres de l'église. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu nous protège. Vous le croyez que Dieu vous protège? Bon, je l'ai su. J'aurais pu ne jamais le savoir. Mais si vous saviez combien Dieu combat pour nous lorsqu'on obéit, prenez courage. Ça, c'est notre devoir. De nous coucher ce soir en disant, Seigneur, je prendrai courage. Comment? En agissant fidèlement. Qu'est-ce que tu me demandes? C'est vrai que je suis tout le temps rogne. Seigneur, je dépose ça à tes pieds. C'est vrai qu'il y a ça qui ne va pas. C'est vrai que ma femme me dit toujours que je suis irrité. Seigneur, je te demande, je ne m'irriterai plus. Quand on est irrité, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il faut aller voir un spécialiste de la démonologie pour vous délivrer de l'irritation? La Bible dit, ne t'irrite pas. Ça serait mal faire. C'est un acte de volonté. C'est comme le pardon. Eh bien, j'arrête de m'irriter. Pourquoi? Parce que je fais confiance à ce grand Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Où il y a des mauvais jours, c'est comme ça. Nous, on aimerait qu'il n'y ait que des bonnes journées. C'est pas vrai? Vous aimeriez pas, vous, qu'il n'y ait que des bons jours? Dites-moi. Eh bien, voilà, je suis désolé. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a des jours mauvais. Il y a des jours difficiles, c'est comme ça. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Que c'est triste de voir tous ces chrétiens qui ont tenu ferme et qui un jour ou un autre, ils ont décroché, ils n'ont pas surmonté. Ça, c'est triste. Et il y a vos reins, la vérité pour ceinture. Tiens, tiens, c'est quoi la vérité pour ceinture? La vérité pour ceinture, mais ce que Dieu dit, je le vis. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Le Seigneur, si tu ne t'inquiètes pas, il prendra soin de toi. Eh bien, je refuse de m'inquiéter. Vous avez vu le nombre de fois, il dit, mais ne portez pas des regards inquiets, ne t'inquiète pas du lendemain, fuyez, bannissez l'inquiétude. Eh bien, je vais le faire. Et ainsi de suite, tous les textes nous permettent de combattre, quand il est dit utiliser le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y en a des combats dans l'invisible. Eh bien, Seigneur, vous savez, souvent, quand je suis arrivé ici, au début, quand je suis arrivé ici, il y avait quand même quelques difficultés quand je suis arrivé. Et quand j'étais à genoux le dimanche matin, mais j'ai fait ça pendant 2-3 ans, je le faisais systématiquement, par la foi, j'étais à genoux dans mon bureau, je disais, Seigneur, je prends courage, je fais un acte de foi. Et je vous assure, toute la journée, mon cœur était rempli de courage. J'ai vraiment vécu cette affaire. C'est pas mystique, c'est pas intellectuel, c'est pas, voyez, de la philosophie, c'est la vérité. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous donne du courage. Pourquoi Paul dit, regardez avec moi dans Colossiens au chapitre 3, juste après, enfin deux livres après. Ce sont des textes qu'on devrait vraiment, je crois, reméditer. Quand il est dit, Colossiens 3:16, c'est le même principe que le commandement que Dieu adresse à Josué. Colossiens, alors il est parlé d'être reconnaissant, ça aussi c'est important d'être reconnaissant. Vous voyez, quand il est dit au verset 15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Demeurer ou habiter, c'est pareil. Vous voyez, c'est ça, prendre courage. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes. Vous voyez, quand on chante, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, ça vous a fait du bien de chanter? Ouais, mais moi aussi. Ça fait du bien de chanter. Exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. Vous chantez des fois dans votre cœur? Est-ce que vous chantez des fois? Vous chantonnez, hein? Eh bien, ça, c'est excellent. Ça prouve combien, voyez, en vertu de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Alors peut-être que vous n'en êtes pas là, moi je n'en sais rien, et puis il ne faut pas se traumatiser, mais moi je vais faire des progrès. Seigneur, tu vas m'aider, je veux faire des progrès. Et si nous faisons comme Josué, si nous nous appliquons à dire, mais c'est vrai, tu m'as donné un foyer, tu m'as donné une épouse, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné des amis, je veux, quand je vais à l'église, leur faire du bien. Vous savez, ça plaît à Dieu ça. Vous savez, il y a un verset que je vais terminer avec ce verset. Quand Dieu dit qu'il étend ses regards sur toute la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont tout entiers à lui. Dieu cherche, alors c'est quelque chose qui nous étonne, même ça prouve qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être. Mais en tous les cas, Dieu cherche sur la terre des gens qui ont le cœur tout entier. Et je crois que quand on prend au sérieux ces choses, vous voyez, quelqu'un qui est simple, mais vrai, sérieux, qui dit ce soir, je t'ai demandé de me parler. J'ai besoin d'une parole. Seigneur, cette parole que tu as adressée à Josué, alors quelqu'un pourrait dire, ouais, mais on n'est pas tous des Josué, c'est vrai. Mais il n'empêche que tous les chrétiens ont la responsabilité de prendre courage. On n'aura pas tous la même responsabilité, c'est vrai. On n'aura pas tous le même service, c'est vrai. D'autres auront des responsabilités plus importantes, c'est vrai. Mais même, quel que soit le service auquel Dieu nous appelle, si Dieu te dit, au travers de mon ministère, parce que quand même il faut être sérieux avec ça, si Dieu te dit, mon fils, ma fille, prends courage, agis fidèlement, selon toute ma parole, c'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès. Revêt-toi de toutes les armes. Tu as mal agi jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. Mais ne laissez pas l'ennemi vous traumatiser. Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait 20 ans que j'ai ce travers. Je vais le régler. Seigneur, aide-moi. Vous croyez que Dieu va vous aider? Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Ne laissez pas le diable vous accuser. Laissez la grâce de Dieu vous envahir. Je vais prendre courage. Alors on pourrait prendre tous les textes qui montrent comment par exemple Abraham a été fortifié. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham pour être fortifié quand sa femme était stérile et que lui, il commençait à être un petit peu en difficulté pour avoir un enfant à 100 ans? Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait gloire à Dieu. Abraham fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tous faire, ça? Seigneur, je te rends gloire. Le matin, je me lèverai, je te rendrai gloire. Je me coucherai le soir, je te rendrai gloire. Ça veut dire que vous lui faites confiance. Moi, je pense que si tous les chrétiens de France, du jour au lendemain, se mettaient à rendre grâce à Dieu, à rendre gloire à Dieu, à le remercier pour toutes les épreuves, je ne sais pas s'il faudrait beaucoup de temps pour avoir un réveil. Seigneur, je te fais confiance. Qu'est-ce qu'il dit, Isaïe? Que ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'il est dit? Pas ceux qui prient, parce que je l'ai souvent dit, ça. Il y a déjà, ils prient. Ils ont critiqué les catholiques toute leur vie, ils font pareil. Ils récitent des Notre Père à Pentecôte, c'est pareil. Et c'est vrai ce que je dis. Mais mes frères et sœurs, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il se confie en Dieu et Dieu renouvelle ses forces. Il prend son vol comme les aigles. Et vous pouvez prendre avec une concordance, tiens, est-ce qu'il y a d'autres textes? Qui sait qu'il faut, comment on peut être fortifié? On termine. J'avais dit, c'est la deuxième fois, tiens, que je dis on termine. Ouais. Allez, on termine vraiment avec Timothée. Ça, c'est un des versets, parce qu'il y a la foi, c'est-à-dire la confiance, mais il n'y a pas que la foi, parce que la foi, sans la grâce, ça ne sert pas à grand-chose, je peux vous le dire. Est-ce que vous avez compris ma pensée? La foi, c'est extraordinaire, mais la foi sans la grâce, ça ne sert presque à rien. Regardez, Paul s'adresse à un jeune pasteur, il sait, Paul, ce qu'il a à dire. Vous savez, Paul, il a beaucoup reçu, et il sait ce qu'il doit dire à un jeune pasteur, croyez-moi. 2 Timothée chapitre 2 verset 1er, et ça avec une concordance vous pouvez le faire, tous les chrétiens du monde peuvent le faire. Les concordances, en plus aujourd'hui c'est gratuit avec internet, tapez concordance biblique. Regardez, 2 Timothée verset 2, c'est un pasteur qui parle à un jeune pasteur. Regardez le premier conseil qu'il lui donne, toi donc, toi mon frère, toi ma sœur, mon enfant, tu es pasteur, mais avant d'être pasteur, sache bien une chose, que tu es d'abord un enfant du Seigneur. Mes frères et sœurs, ne jouons pas la comédie. C'est pas parce que nous avons reçu un ministère, quel qu'il soit, que Dieu voit notre ministère. Quand Dieu nous regarde, il voit d'abord ses enfants. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi, comment? Dans la grâce. Mes frères et sœurs, la foi sans la grâce, ça sert à rien. David, il a tué Goliath, vous êtes d'accord? C'est par la foi ou par la grâce? Attendez. Franchement, c'est une question intelligente. Comment David a-t-il tué Goliath? Est-ce que c'est un acte de foi ou est-ce que c'est par la grâce de Dieu? C'est vrai qu'il a mis sa foi en Dieu, parce que quand même, bon, il fallait le faire. Il l'a fait tel qu'il était, quand Saül lui a mis son armure, vous voyez, il s'en est débarrassé, heureusement, parce que s'il avait couru avec l'armure, je pense qu'il se serait fait tuer. Il s'est débarrassé, il faut être soi-même, Et il a couru, il a ramassé des pierres. Et il a... Mais c'est sûr que c'est un acte de foi. Mais je pense quand même que Dieu a pu pousser un peu la pierre. Vous ne croyez pas que c'est une grâce du Seigneur? S'il est resté humble après cette victoire, c'est quoi? C'est la foi ou la grâce? Vous voyez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous lisez la Bible, vous pouvez accentuer le courage par la foi. Mais moi, je peux vous dire quand même que si vous êtes sincère, vous verrez que tout est grâce. Et si cette prédication vous a fait du bien, si vous dites, mais c'est clair, je vais lire la Bible, je vais relire peut-être les psaumes et voir toutes les fois où Dieu, où un comportement fait qu'un homme a été fortifié. Quand est-ce que David a été fortifié? Le jour où je t'ai invoqué, tu as fortifié mon âme. Je vais changer ma façon de prier, les prières toutes faites, les prières récitées, tout ça, papa, à la poubelle. Je vais me remettre à prier et à prendre courage. Je vais vivre dans la vérité. Et s'il y a des choses, vous savez que Dieu bénit. Toute grâce, tout don parfait descendent d'en haut. Dans une église, il pourrait y avoir 1000 chrétiens qui sont découragés. S'il y en a un qui prend courage, eh bien, il sera courageux. Et ce n'est pas les 999 autres qui vont le décourager. Ça, j'en suis convaincu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va le remercier. Vous voulez bien? On lui demande de l'aide? Tous de l'aide. On est ses enfants, quand il nous regarde, si vous avez pris le baptême par immersion, vous êtes son fils ou sa fille, et vous avez le droit, la joie de lui dire « Seigneur, aide-moi ». Alors on lui demande de l'aide pour terminer cette réunion. Notre Père, nous comprenons tous que ta volonté, elle est bonne. Que ta volonté, c'est que nous terminions tous la course en ayant du courage, non seulement pour te plaire, mais également pour affronter ces mauvais jours ou ces bonnes journées, mais Seigneur, pour faire du bien à tous ceux que nous côtoierons. Seigneur, pardon, vraiment pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons négligé ta parole, où nous avons chanté des cantiques, où nous avons fait des prières que nous n'avons pas du tout mises en pratique. Seigneur, pardonne-nous pour ces manquements et ces faiblesses. Ce que nous voulons ce soir, Seigneur, c'est agir fidèlement, selon ta parole, c'est nous revêtir de toutes ces armes qui feront que nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et surtout, Seigneur, même si notre foi augmente, nous t'en bénissons, nous comptons que sur ta grâce. Vraiment, c'est ta grâce qui nous fortifiera parce que tout nous vient de toi. Que ton don soit béni. Aide-nous, Seigneur, à méditer ces textes pour la gloire de ton nom et pour que nous soyons de bons chrétiens qui seront prêts quand tu reviendras nous chercher. Amen.